J'enregistre ce balado un 9 mars, donc lendemain de la Journée internationale des droits des femmes. Il était logique de consacrer l'épisode à une personne qui est montée au créneau pour dire haut et fort que les femmes avaient les mêmes droits que les hommes et qu'il l'a fait dans la France de la fin du 18e siècle, une période où l'idée n'était pas très populaire. Mais Olympe de Gouges, née Marie Gouze à Montauban, dans le sud-ouest de la France, en 1748, défendait les idées qu'elle considérait comme étant justes, qu'elles soient populaires ou non. Marie Gouze est la fille d'Olympe Mouisset et, possiblement, d'un nommé Pierre Gouze, quoique la plupart des gens à l'époque pensaient qu'elle était la fille de l'amant de sa mère, le poète Jean-Jacques Lefranc de Pompignan. En tout cas, Olympe de Gouges se réclamera toujours d'avoir hérité de la plume de Lefranc de Pompignan. Elle reçoit une éducation rudimentaire et à 17 ans, on l'oblige à épouser un homme plus âgé qu'elle, avec qui elle aura un fils. Et on dit souvent que son mari avait 30 ans de plus qu'elle et qu'il est décédé un an après l'avoir épousé, mais il est possible qu'il n'avait pas 30 ans de plus qu'elle et qu'il soit décédé quelques années après que sa femme ait quitté le domicile conjugal pour s'installer à Paris. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on ne sait pas grand-chose à propos de sa jeunesse. Mais ce mariage, bref et malheureux, a eu un impact positif. Dans les sociétés de l'époque, et de bien des époques qui ont suivi, les filles sont sous l'autorité de leur père, alors que les femmes mariées sont sous l'autorité de leur mari. Les veuves sont les seules à pouvoir se gouverner elles-mêmes. D'ailleurs, même si elle est devenue veuve très jeune, elle qui a souhaité plus tard abolir le mariage religieux qu'elle qualifiait de tombeau de la confiance et de l'amour, ne s'est jamais remariée. À Paris, Marie Gouze devient Olympe de Gouges. Elle mène une vie de courtisane, a de nombreuses fréquentations, dont un nommé Jacques Biétrix de Rosières, qui va lui permettre de vivre une vie confortable. Elle s'intéresse beaucoup à la vie intellectuelle et culturelle du Paris de son époque. Elle fréquente les salons, elle croise des philosophes, des érudits et va s'intéresser au théâtre, un peu comme comédienne, mais surtout en tant que dramaturge. De Gouges écrira beaucoup dans un court laps de temps et elle est une autrice engagée. Elle rédige dans les années 1780 une pièce intitulée « Zamor et Mirza », une critique acerbe de l'esclavagisme et du colonialisme. Il n'y avait pas d'esclavage en France métropolitaine à ce moment-là, mais la pratique a été encouragée par les autorités royales dans les colonies des Antilles, où la culture de la canne à sucre, notamment, était florissante. La pièce est présentée à la Comédie française, le grand théâtre de Paris, rien de moins, mais elle soulève un tollé. Il y a du chahut pendant la première, ça vient potentiellement des pro-colonisations et des pro-esclavages qui n'avaient pas intérêt à ce que la pièce fonctionne. Elle sera retirée de l'affiche après quelques représentations seulement. Et les critiques n'ont pas été tendres. Il se peut que la pièce était en avance sur son temps. Il se peut que les critiques aient été influencées par le lobby des grands propriétaires esclavagistes. Il se peut aussi que la pièce n'était pas très bonne. La vérité est probablement quelque part au milieu de tout ça. Mais qu'à cela ne tienne, l'esclavage et le colonialisme, ce sera un thème récurrent dans l'œuvre d'Olympe de Gouges. Mais ce n'est pas son seul combat, loin de là. À travers ses pièces, ses pamphlets, ses lettres, ses affiches, elle milite pour le droit au divorce, pour la régularisation de la condition des enfants nés hors mariage, pour un impôt sur les fortunes, pour la création de foyers pour les indigents notamment. Elle est contre la peine de mort, contre l'emprisonnement pour dette. Bref, elle rêve d'une société tout à fait différente de la société de son époque. Mais aussi, peut-être surtout, Olympe de Gouges est frappée par les inégalités entre les hommes et les femmes. Sa pièce « Zamor et Mirza » est présentée en 1789, année de la prise de la Bastille et du début de la Révolution française. Et si la Révolution est animée par de grands idéaux, surtout au début, on ne peut pas dire, pour employer un terme qui n'existait pas à ce moment-là, que c'est très « woke » en ce qui a trait à la place des femmes dans la société. On adopte en août 1789 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où on dit que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est un concept assez original à ce moment-là. Les souverains avaient tous les droits, les possédants avaient énormément de droits, mais les gens ordinaires avaient surtout des obligations. Là, on parlait de droits inaliénables à la liberté d'opinion notamment, à la sécurité, le droit de résister à l'oppression. On disait que tout le monde était égal devant la loi, mais c'était une déclaration des droits de l'homme. Ça ne s'appliquait évidemment pas aux gens tenus en esclavage dans les colonies, et ça ne s'appliquait pas vraiment aux femmes non plus. Olympe de Gouges va chercher à pallier à ce qu'elle considère comme des carences dans la déclaration. Elle en reprend les articles, les modifie, et ça donne la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qu'elle publie en 1791. Son premier article à elle se lit comme suit. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit, donc même après le mariage. Ça, c'était une idée révolutionnaire à ce moment-là. Elle écrit aussi. L'exercice des droits naturels de la femme n'a de borne que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose. Ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison. Elle va donc très loin parler de tyrannie exercée par les hommes sur les femmes. Et de Gouges ne demande pas de traitement spécial. Selon elle, les femmes devraient jouir de toutes les libertés, des opportunités, mais aussi faire face à toutes les obligations auxquelles les hommes sont soumis. Elle dit, « Toutes les citoyennes et tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi doivent également être admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. » Donc, les femmes devraient pouvoir faire tout ce qu'elles sont capables de faire. Après tout, la femme a le droit de monter sur l'échafaud, donc c'était la guillotine à ce moment-là en France. Elle doit avoir également le droit de monter à la tribune, de s'exprimer, de prendre part à tous les débats de société, notamment par le droit de vote. Malheureusement, le texte n'a pas trouvé son public et n'a pas suscité de réaction chez les élus. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne a sombré dans l'oubli et n'a refait surface que bien plus tard. La Révolution française prend un tournant en 1793. Le roi Louis XVI est guillotiné. On crée un tribunal spécial pour juger les crimes contre-révolutionnaires et à peu près tout pouvait qualifier comme étant des propos ou des actions contre-révolutionnaires. La liberté de parole connaît un net recul et ça, c'était une situation dangereuse pour une femme libre comme Olympe de Gouges. Elle n'était pas du genre à se censurer ou à n'exprimer que des opinions populaires. Elle craignait beaucoup, entre autres, de voir le pays sombrer dans la dictature et va critiquer très durement Maximilien Robespierre. En juillet 1793, de Gouges fait publier une affiche où elle réclame un référendum sur la forme de gouvernement que la France révolutionnaire devrait adopter. Et selon elle, la monarchie parlementaire, le système qui avait cours en Grande-Bretagne, devait faire partie des choix. Seulement, une loi avait été adoptée quelques mois plus tôt qui interdisait carrément de faire la promotion d'une forme de gouvernement qui n'était pas une république. De Gouges est arrêtée et jetée en prison. Elle subit un procès expéditif le 2 novembre et condamnée à mort et guillotinée dès le lendemain à l'âge de 45 ans. Elle n'a pas été guillotinée pour avoir réclamé l'égalité homme-femme, mais si on se fie à certaines des réactions à sa mort, elle parlait trop, elle dérangeait. En un mot comme en mille, elle aurait dû retourner aux cuisines. On sait qu'encore aujourd'hui, une femme qui a des opinions arrive très vite au point où elle a trop d'opinions. Donc imaginez en 1793. Un journal proche du pouvoir écrit « Elle voulut être homme d'État. Il semble que la loi ait puni cette conspiratrice d'avoir oublié les vertus qui conviennent à son sexe. » Et un politicien du nom de Pierre-Gaspard Chaumette va encore plus loin. Il dit d'elle que c'est une virago, terme qu'on n'emploie pas souvent, donc une femme qui se conduit comme un homme, l'impudente Olympe de Gouges, qui abandonna les soins de son ménage, voulut politiquer et commis des crimes, a été anéantie sous le fer vengeur des lois. Et en s'adressant aux femmes, il ajoute, « Vous ne serez vraiment intéressante et digne d'estime que lorsque vous serez ce que la nature a voulu que vous fussiez. » Nous voulons que les femmes soient respectées, c'est pourquoi nous les forcerons à se respecter elles-mêmes. Notons pour la petite histoire que Chaumette a à son tour été guillotiné quelques mois plus tard, mais ça n'avait rien à voir avec cette déclaration. Olympe de Gouges va, tout comme son œuvre, sombrer dans l'oubli. Il a fallu attendre les années 1980 avant qu'on lui consacre une biographie substantive et qu'on commence à reconnaître la force et l'avant-gardisme de ses idées. Cette Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui avait été imprimée à seulement 5 exemplaires au moment de sa rédaction, est maintenant affichée au Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale de France, Ça aussi, c'est un endroit pas très woke où les politiciennes entendent régulièrement des commentaires misogynes en pleine assemblée. Tout le monde n'a pas encore mis en application les idéaux que de gauche prônait. Mais au moins, on commence à apprécier la vision qu'elle a mise de l'avant malgré l'hostilité de la société dans laquelle elle vivait.